Sur le plan politique, il y a quelques années, il y avait des problèmes entre Potosi et puis Sucré, justement. Est-ce qu'il y a eu un impact sur la Paz aussi, également?
Ben, c'est ce que je vous disais, là, cette grande réunion, la CEDE no se mueve, c'était justement lié à ces problèmes politiques. Il y a une grosse opposition entre la partie altiplanique et la partie zone basse, qui se catalyse parfois à travers d'autres villes. Hein, mais bon, l'opposition, c'est entre Santa Cruz et La Paz, essentiellement. Ils sont deux cultures politiques, deux cultures...
Et puis, il semblait dire aussi qu'il y avait les anciens, les propriétaires terriens, enfin les riches, et puis les...
Oui, c'est quand j'ai
aussi ces conflits-là.
Voilà, l'altiplano, c'est une zone de petites parcelles agricoles, alors que les parties basses sont des zones de très grands latifundias, de très grandes propriétés foncières de milliers d'hectares. Et donc, entre autres, la Constitution prévoyait une réduction des superficies, par obligation, une réduction des superficies des parcelles. Donc c'est sûr que les gros propriétaires fonciers qui sont sur Santa Cruz ont tout fait pour que sa constitution ne puisse pas voir le jour. Et une manière d'embêter le gouvernement qui voulait cette nouvelle constitution, c'était entre autres de remettre en cause le siège du gouvernement. Donc quand je vous ai parlé de cette opposition, c'est lié vraiment à d'autres aspects que le simple fait. Je pense que les Boliviens n'ont pas un gros problème avec où est la capitale. C'était vraiment une instrumentalisation de la politique locale. Enfin, national, qui se reportait sur la ville capitale.
Est-ce qu'ils ont du pétrole en Bolivie?
Un tout petit peu, mais les ressources, c'est essentiellement gazières. Le gros de la richesse de la Bolivie est le gaz, donc qui est présent sur Santa Cruz, dans la région de Santa Cruz, qui est la deuxième réserve gazière d'Amérique latine, connue pour l'instant, donc après le Venezuela, mais comme on découvre pas mal de réserves au Brésil, je ne sais pas très bien où ça en est. Mais là aussi, le gaz n'est pas utilisé par la Bolivie très peu parce qu'elle n'a pas les infrastructures pour. Donc ça part essentiellement au Brésil. São Paulo fonctionne essentiellement que par le gaz bolivien.
Ça leur crée de la richesse.
J'ai pas entendu.
Ça leur crée de la richesse, le gaz.
Maintenant, oui. Disons que jusqu'en 2006, avant le premier gouvernement d'Evo Morales, les contrats n'étaient quand même pas très, très favorables à la Bolivie. Donc, une renégociation de contrats qu'ils ont appelé nationalisation, qui n'est pas du tout de la nationalisation, c'est des renégociations de quelle est la part qui revient d'impôts qui revient à l'État. Donc, ils sont allés à l'augmentation de ces impôts. Et donc, la Bolivie a des rentrées d'argent beaucoup plus importantes et investies. Beaucoup là depuis 2006. On voit vraiment les investissements en termes de couverture santé, en termes d'accès à l'éducation, de construction d'infrastructures routières, etc. Donc il y a beaucoup plus d'argent. Mais ça se passe un petit peu, alors heureusement à une moindre échelle, ce qui se passe au Venezuela, c'est qu'il y a quand même un syndrome où il y a beaucoup d'argent lié à l'hydrocarbure. Donc c'est des ressources qui sont assez faciles. Et par exemple, très régulièrement, il y a des problèmes. La Bolivie n'est pas autosuffisante en termes alimentaires. Donc il y a des tensions sur certains aliments assez régulièrement. Quoi. Je me souviens, l'an dernier, il y avait le sucre, alors que la Bolivie produit du sucre. Le sucre, on n'en trouvait plus. Et c'était, dans ces cas-là, ce sont des camions militaires qui distribuent le sucre. Et voilà, quoi.
Merci.
Du Chili, non ? Il y a des accords, je crois, entre la Bolivie et le Chili, non ?
Oui, il y a un accord avec la Bolivie, en fait, le Pérou. C'est le Pérou qui donne un accès à la mer via, effectivement, une espèce de petit couloir. Donc, il faut passer sur le territoire péruvien pour accéder au port, mais qui n'est pas du tout... c'est un tout petit port, hein, c'est pas du tout un port qui permet les exportations importantes, etc., qui, en plus, n'est pas du tout équipé pour un port, justement, d'exportation d'hydrocarbures. Donc, oui, il y a un accès à la mer, mais franchement, ce qui n'est pas vraiment un accès à la mer, quoi. C'est une zone franche qui est autorisée par le gouvernement péruvien. Donc, depuis 2006 également, donc depuis le premier gouvernement Morales, la discussion, qui était assez facile en plus à l'époque, parce que c'était Madame Bachelet qui était présidente du Chili, c'était d'essayer de négocier un accès à la mer avec le Chili. Pour résumer, c'était la Bolivie n'exporte officiellement pas d'hydrocarbures, enfin de gaz au Chili. Dans la pratique, ils exportent du gaz, mais ça passe par l'Argentine. C'est-à-dire qu'ils vendent du gaz à l'Argentine qui revend au Chili. Bon, c'est un peu comme ça que ça se fait. Donc là, la négociation, c'est on vous vend du gaz et en échange, on récupère un accès à la mer. Voilà.
Mais, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu un port qui appartenait à la Bolivie.
Ah bah, la Bolivie a eu un littoral entre l'indépendance et le début du XXe siècle, il y avait un littoral. Hein. Toute la partie chilienne d'Antofagasta jusqu'au nord au sud pardon du Pérou était une partie bolivienne. La Bolivie a cette caractéristique aussi d'avoir à peu près perdu, je pense, toutes ses guerres avec ses voisins. Donc, quand on voit une carte de ce qu'était la Bolivie à l'indépendance, et puis aujourd'hui, elle a perdu, il me semble, pas loin de la moitié de son territoire. Donc, c'est assez important. C'est deux fois en superficie, deux fois la France métropolitaine. Donc, elle a perdu beaucoup, beaucoup de territoire avec tous ses voisins. Donc, elle n'a pas de bonne relation avec l'ensemble de ses voisins, ce qui explique aussi pourquoi les négociations pour l'accès à la mer sont compliquées. Et ce qui lui pose des problèmes aussi en termes d'économie, parce que exporter son gaz, c'est compliqué, elle doit forcément passer par les pays voisins. Donc soit ce sont les pays voisins qui lui achètent le gaz, ce qui est en fait le cas, soit pour vendre à l'étranger, elle est dépendante des voisins. Donc si elle a de mauvais rapports avec les États voisins, ben on peut lui couper aussi l'exportation du gaz, pas très compliqué. Ce qui explique aussi pourquoi les problèmes alimentaires sont des vrais problèmes, c'est qu'elle n'est pas autosuffisante, et là aussi elle est dépendante des voisins pour s'approvisionner, parce que tout passe par le territoire voisin. Ah si, ils produisent, c'est un très très gros producteur de soja, mais ils exportent. Le gros de l'export, enfin là j'ai pas, c'est pas du tout mon domaine, donc j'ai pas une idée très précise des quantités, mais le gros de la production de soja est exporté. Alors c'est assez étonnant, c'est au Venezuela. Moi je pensais que le gros du soja était vendu au Brésil, parce que c'est le pays voisin et qu'en plus les Brésiliens sont de gros producteurs de soja. Et c'est vendu au Venezuela. C'est le Venezuela qui achète le soja. Donc c'est vraiment une fois en discutant dans l'avion avec la personne qui était à côté de moi, qui m'a dit qu'il était dans le commerce du soja. Et donc j'étais vraiment persuadé que c'était vendu aux Brésiliens, qui revendaient ensuite, eux, aux marchés internationaux. Mais en fait, pas du tout. Ça part au Venezuela. Donc ce qui est là aussi, c'est assez intéressant. Ça veut dire que le soja qui est produit au Bolivie, j'essaie de vous montrer. Je sais pas, j'ai une carte quelque part. Le soja qui est produit, bon, j'arrive pas à retrouver une carte. Là. Le soja qui est produit en Bolivie, je sais plus si j'avais une carte qui apparaissait quelque part. Est-ce qui apparaissait pas? Donc, je n'ai pas une carte complète de la Bolivie là. Le soja qui est produit en Bolivie donc, est produit dans la partie des plaines, donc très très loin de l'autre côté, enfin, de la côte pacifique. Mais en fait, tout repart sur le Pacifique en camion. Donc, il y a une grosse prouesse aussi, et aussi en termes de coût, parce que c'est quand même des pondéreux, donc ça coûte quand même cher à transporter. Donc je ne sais pas là par quel port ça passe, j'imagine à la fois par des ports chiliens et par des ports péruviens, et par ce petit port bolivien sur le territoire péruvien, pour être exporté au Venezuela. Ce qui n'est pas non plus très étonnant, étant donné que le Venezuela ne produit plus rien. Quoi. Donc, grand besoin de peu près toutes les denrées. Donc, en termes agricoles, ce qui est essentiellement produit, c'est le soja en très grande quantité. Ensuite, mais bon, en termes de quantité, c'est assez limité, c'est important, mais c'est limité, c'est la quinoa. 80% de la quinoa, qui est une espèce de quinoa, qui est une graine, qui a l'intérêt d'être très riche en protéines. Donc 80% à peu près de la quinoa qui est consommée dans le monde provient de la... Non, on la consomme en graines. Oui, c'est une céréale. Et donc est produite en Bolivie avec un aspect intéressant et puis un aspect très négatif pour la Bolivie, c'est que essentiellement c'est les Européens les Américains qui consomment ce genre de produits, donc c'est vendu quand même, c'est acheté relativement cher à la Bolivie, donc pour les producteurs c'est assez intéressant parce qu'ils vendent cette production assez, assez cher, mais comme la demande est importante, ils ont tendance aussi à étendre la zone de culture de cette plante qui est produit dans des conditions climatiques assez difficiles, et en fait ça a déclenché vraiment des processus d'érosion assez, assez importants dans la zone de production de quinoa. Donc c'est une autre équipe de mes collègues de l'IRD qui travaille sur un programme quinoa là, qui ont montré que vraiment il y a des gros problèmes liés à la production de quinoa en Bolivie, pas liée à la demande interne, mais liée à la demande externe. Et en plus, les populations qui produisent la quinoa, enfin les producteurs de quinoa s'enrichissent un petit peu, mais perdent aussi une très grosse source de protéines puisqu'ils la vendent. Donc l'aspect financier ne vient pas forcément compenser l'aspect perte de protéines. Ben oui, mais parce que l'argent, ça permet aussi de scolariser les enfants. Après, c'est un choix à l'échelle de, ce sont des petits producteurs, donc à l'échelle d'une famille, c'est sûr que on peut imaginer que d'avoir un peu plus de ressources financières, ça peut permettre de scolariser l'enfant ou les enfants, et que ben, l'aspect alimentaire, en tout cas d'apport alimentaire, vient de manière secondaire, quoi. C'est certainement pensé de cette manière-là, quoi. Peut-être que vous pourriez répondre, parce que là, je...
Actuellement, y a-t-il beaucoup de missions à l'étranger ?
Alors, on est présent dans de nombreux pays. En termes de personnel, moi, je ne peux pas bien vous dire.
Alors, je vais répondre à cette question sur l'IRD. Donc, l'IRD est un institut qui travaille dans les pays du Sud. Il y a des missions longue durée, il y a aussi des missions... Il reste pendant 2 ou 3 ans sur place. Il y a 680 chercheurs, à peu près, 700 chercheurs, et il y en a à peu près 30% qui sont expatriés, donc qui vivent pour 2 ou 3 ans pour conduire des programmes de recherche. Et c'est systématiquement des programmes de recherche, comme le disait Sébastien, qui sont menés en partenariat avec des structures locales de recherche, universités, laboratoires, organismes publics de recherche. Oui, bien sûr, c'est toujours des accords, bien sûr, avec les États. On ne fait aucune recherche qui ne soit pas encadrée par un accord avec le pays. Pardon, oui, c'est les forêts. Oui, c'est nous qui avons organisé les cycles sur
donc,
les forêts.
Donc l'IRD a un aspect... C'est certainement le seul institut qui est, enfin le seul organisme de recherche dans le monde qui a cet aspect. Donc on fait de la recherche qu'en partenariat. Qui s'explique, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez, on a deux tutelles ministérielles, le ministère de la Recherche, le ministère des Affaires étrangères, via la coopération, ça dépend si c'est un secrétariat, etc. Et donc, par le ministère de la coopération, donc on a cette obligation d'avoir un partenaire local. Donc on ne fait pas de recherche sans partenaire local, parce que c'est une manière de faire du développement à travers la recherche. Donc, notamment, on forme énormément d'étudiants. Je vois en Bolivie, donc, il y a plusieurs universités, mais on va dire, la grosse université publique, c'est à La Paz quand même. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on va dire qu'il doit y avoir grand maximum une vingtaine de docteurs dans cette université qui doit quand même faire 40 000 étudiants. Donc des gens qui ont un doctorat, et sur cette vingtaine, je pense qu'au moins une bonne moitié était formée dans des programmes de l'IRD sur plusieurs décennies, hein, parce que l'IRD est présent en Bolivie depuis très longtemps. Le fait de faire de la recherche en coopération, ça veut dire aussi qu'on ne fait pas du pillage intellectuel. C'est-à-dire qu'a priori, la recherche qui est menée sert aussi au pays. Comme on a un partenaire qui est sur place... C'est parfois une contrainte, mais bon, il nous oblige aussi à travailler sur des choses qui, lui, l'intéressent. Donc, en tant que chercheur, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours cette vision-là. Enfin, on peut avoir une vision plus recherche sans se préoccuper exactement de à qui, à la fin, ça va bénéficier directement. Bon, bah, le chercheur local, lui, il a cet aspect beaucoup plus lié à son pays, et ce qui est très bien. Et donc, on peut pas faire de pillage intellectuel, parce qu'il y a forcément... et de la formation sur place qui se fait via les chercheurs, via les étudiants. On a une obligation de publier aussi les données et les résultats sur place, une obligation morale, mais aussi une obligation, le partenaire nous le demande. Hein. Et grosso modo, on ne part pas avec les données et c'est fini. Quoi. Donc ça, c'est vraiment la particularité de l'IRD qui, à ma connaissance, n'existe pas dans d'autres organismes de recherche publique dans d'autres pays.
Pour avoir plus d'informations sur l'IRD, vous pouvez aller. On distribue là le Science au Sud, qui est le journal de l'IRD. Et puis, vous pouvez aussi aller sur notre site internet, c'est www.ird.fr. Il y a une rubrique qui s'appelle Médiathèque, qui s'adresse plus particulièrement au grand public. Vous pouvez voir des films courts, consulter nos expositions, les fiches d'actualité scientifique qui font le point sur des résultats récents de recherche.
Puis, juste pour compléter en termes d'expatriation, enfin de présence de l'IRD à l'étranger, donc vous parliez des chercheurs, mais il y a aussi des ingénieurs. Il n'y a pas que des chercheurs, il y a aussi un petit peu de personnel administratif. Donc, pour la Bolivie, par exemple, moi, quand j'y suis arrivé, on était, me semble-t-il, 25 chercheurs. Donc, il devait y avoir, bon, il y a beaucoup moins d'ingénieurs qui étaient présents, mais je pense que entre le personnel local administratif, plus les chercheurs, plus les ingénieurs, on devait tourner peut-être à une quarantaine de personnes. Bon, ça fait, en termes d'impact dans le pays, c'est quand même assez important. Hein. En Bolivie, il y a très peu de recherche qui se fait, et le gros de la recherche qui se fait à travers les programmes que met en place l'IRD. Il y a peu de choses qui se font en dehors de ça.
En France à ma connaissance.
En France, en fait, l'IRD, une autre de ses spécificités, c'est un petit organisme de recherche. On a le même statut que le CNRS, sauf qu'on est 2000, on est petit. Enfin, pas si petit que ça, mais bon, c'est pas l'échelle du CNRS. Et une des particularités également de l'IRD, c'est que, tout à l'heure, on vous a dit on travaille sur les pays du Sud, en fait, on travaille dans la zone intertropicale. Donc, on travaille que des problématiques de zone intertropicale. Donc, on va travailler sur le territoire français, mais dans les ROMCOM maintenant. Donc, il y a une représentation en Martinique, donc pour la zone caribe française et non française. Là, moi, en ce moment, je travaille à Port-au-Prince, donc je suis dépendant de cette zone caraïbe de la Martinique. On est présent également en Nouvelle-Calédonie pour la partie française, à La Réunion. Voilà. Donc, on travaille aussi parfois sur le territoire français, mais vraiment dans la problématique zone intertropicale. Et c'est vraiment une goutte d'eau par rapport à, on est quand même plutôt présent à l'étranger.
Juste compléter, parce que je travaille moi aussi à l'IRD, et pour vous dire que, comme vous le voyez, notre collègue Sébastien Hardy fait partie d'un laboratoire PRODIG, vous avez le logo, c'est donc une unité dont on partage la responsabilité, nous l'IRD, avec des universités parisiennes, le CNRS. Et donc de ce fait, c'est vrai que nos recherches sont exclusivement dans les pays du Sud, mais dans ces laboratoires, on travaille avec des collègues sur les mêmes thématiques qui, eux, travaillent en France. Donc il y a des échanges quand même, d'une part, et d'autre part, on participe à des instances nationales ou internationales où il n'y a pas que des gens qui travaillent au Sud qui participent.
Oui, bah, là, ça, c'est le logo de l'Europe parce que c'est un projet qui est financé par le département d'aide humanitaire de la Commission européenne. Mais autrement, oui. J'ai pas eu le projet, mais l'an dernier, j'étais porteur d'un projet sur financement européen. Et donc, ces programmes européens, une des obligations, c'est de construire ces programmes avec d'autres universités européennes. Donc oui, ça peut tout à fait nous arriver. Et l'IRD à l'étranger, comme on a des structures vraiment sur place, c'est-à-dire bâtiments administratifs, du matériel, etc., on accueille nos collègues et français, donc universitaires, CNRS, CIRAD, etc. Et on peut également accueillir des collègues d'autres universités, pas forcément d'ailleurs qu'européennes, américaines, bon, quel que soit le pays. Après, c'est une histoire d'accord entre les institutions, mais oui, on a des rapports avec d'autres partenaires. Alors oui, par exemple, ma collègue vous a dit que généralement, enfin, on avait plusieurs modalités de présence à l'étranger, et notamment par affectation de longue durée, donc plusieurs années. Donc moi, j'ai passé presque 5 ans et demi, 6 ans en Bolivie. Et là, cet été, je suis reparti 2 mois, parce que pour continuer à avoir un petit peu à la fois mon partenaire, qui maintenant doit piloter seul le projet de recherche qui s'est, pour l'IRD, on va dire, terminé. Mais oui, on continue à garder des contacts. L'idée, c'est quand même de faire en sorte que le partenaire devienne autonome aussi dans le projet de recherche. Alors, soit le même projet de recherche, soit après, il fait du projet de recherche ce qu'il veut. Il peut aussi